Histoire de la recherche. La sixième saison du podcast Médecine, Sciences et Recherche Clinique, proposée par la Direction Recherche et Enseignement de Ramsay Santé. Au sein du groupe Ramsay, de nombreux médecins portent des projets de recherche clinique innovants dans différentes spécialités. Et pour en arriver là, il a fallu des décennies de recherche scientifique. Dans ce podcast, ils nous racontent l'histoire de la recherche dans leur domaine. Pour ce deuxième épisode, nous rencontrons le professeur Guy Rostocker, néphrologue, qui exerce à l'hôpital Ramsay Claude Gallien à Quincy-sous-Sénart, en région parisienne. Il est le témoin privilégié de l'histoire de la recherche en néphrologie de ces 40 dernières années, à laquelle il a assisté et participé. Il nous raconte les grandes avancées dans le domaine de la néphrologie, augmentation du nombre de dialysés, démocratisation de la greffe et essor de la néphroprotection. Tout commence dans les années 80. François Mitterrand arrive au pouvoir, l'Europe est toujours coupée en deux par le mur de Berlin et à la radio, la chanson Thriller de Michael Jackson tourne en boucle. Le professeur Rostocker, lui, fait ses premiers pas dans des services de néphrologie.
Moi, dans mon souvenir, quand j'étais interne et jeune chef de clinique, la salle de dialyse était quelque chose d'assez effrayant, avec des gens qui supportaient pas bien, avec des chutes de tension, des vomissements. C'était vraiment presque une salle de torture. Vraiment, je m'étais dit jamais, je ferai de la dialyse, c'est trop dur, quoi. Et en fait, l'évolution s'est faite très vite. Je suis arrivé, on va dire, au moment des évolutions technologiques et ça a complètement rendu la dialyse comme une modalité, je dirais, acceptable en termes de tolérance physique, mais aussi psychique et de bien-être des patients.
Alors, comment expliquer cette amélioration de la prise en charge des patients en dialyse à la fin des années 80 ?
Il y a deux grands tournants, un sur les molécules et l'autre sur les machines. Le premier grand tournant, en fait, qui a été la principale révolution thérapeutique des 50 dernières années a été la découverte du gène de l'érythropoïétine, son clonage, la possibilité de produire de façon industrielle de l'érythropoïétine recombinante qui pouvait être administrée de façon sûre aux patients. On a corrigé l'anémie qui était présente, on a arrêté de multitransfuser les gens, on a arrêté d'induire des surcharges martiales majeures et les gens retrouvaient vraiment une santé tout à fait satisfaisante.
Nous sommes à présent dans le service de dialyse du centre hospitalier régional à Limoges. Ce service est nouveau, il fonctionne depuis très peu de temps. Il est équipé de 5 reins artificiels.
Je trouve vraiment du mieux, je me sens nettement mieux.
Je suis très conscient de ma situation. Il y a quelques années, mon état de santé ne m'aurait pas permis de vivre. Pour moi, c'est devenu une routine.
Les machines, dans les années 80, utilisaient des dialysats qui étaient très mal tolérés, qui entraînaient des chutes de tension et des nausées, des vomissements. Et c'est vrai qu'il y a eu une évolution à ce moment-là, puisque d'une part est apparu ce qu'on appelle le dialysant bicarbonate, qui a un métabolisme beaucoup plus facile dans le corps. La deuxième chose qui est apparue à ce moment-là, en termes d'apport technologique, ce sont les maîtriseurs d'ultrafiltration. Et à partir de là, on a été capable d'ouvrir la dialyse à des gens qui étaient plus âgés et plus comorbides, avec des comorbidités.
En 40 ans en France, le nombre de patients dialysés a été multiplié par 10 et leur moyenne d'âge est passée de 45 à 70 ans.
Le troisième élément qui a permis d'élargir la dialyse à des gens comorbides ou âgés ou aux patients qui se présentaient en urgence, en réanimation et après qu'on prenait dans les centres de dialyse, c'est les cathéters d'hémodialyse tunnelisés qui peuvent rester quasiment une dizaine d'années chez les patients et qui permettent notamment de dialyser en urgence mais aussi de dialyser les gens âgés qui n'ont pas de possibilité de faire des abords vasculaires. On est passé de quelque chose qui était vraiment très archaïque, les gens vivaient mais vivaient mal, avec actuellement quand même, alors certes il y a la contrainte de la dialyse, mais les gens ne souffrent pas en séance, ils sont plutôt très bien, on dialyse des gens âgés, il y a une vie sociale. Alors bien sûr, pour les gens les plus jeunes qui n'ont pas de comorbidité ou des comorbidités stabilisées, bien sûr, la greffe est la meilleure option, ça reste évident.
Dans le domaine de la greffe aussi, les années 80 ont été marquées par de grandes avancées, notamment grâce à l'arrivée d'une molécule, la cyclosporine. Elle a permis de réduire les rejets de greffons et de démocratiser la greffe rénale.
J'ai vu l'arrivée d'une molécule qui était extraordinaire. Et ça, ça a permis le développement de la greffe de façon très ubiquitaire dans beaucoup de centres en France. Même des petits CHU, tout le monde s'est lancé.
Nous avons procédé à une série d'enquêtes à Paris, Lille, Bordeaux, Rennes, Lyon, Toulouse et Strasbourg.
Monsieur, est-ce que vous êtes pour ou contre les greffes d'organes, du rein, du foie?
Je ne vois pas du tout quand c'est utile, non?
Oh, les greffes? Oh oui, mais je suis tout à fait pour, alors.
Oh non, non, moi j'en ai un, j'ai bien assis, j'ai pas besoin d'un autre.
Donc ça, ça a été vraiment quelque chose d'assez spectaculaire. C'est que la cyclosporine a vraiment permis le développement des autres greffes d'organes, c'est-à-dire la greffe de foie ou encore les greffes de cœur, le développement des greffes de pancréas, des greffes pulmonaires.
Autre découverte de l'époque dans le domaine de la greffe, un médicament contre le cytomégalovirus, CMV. Une petite révolution à laquelle le professeur Rostocker a assisté et participé par ses travaux de recherche en prenant en charge un patient bien particulier.
C'est le premier patient transplanté au monde qui a été traité pour une primo-infection à cytomégalovirus par les premières ampoules de ce produit qui n'était pas encore disponible et donné généreusement par le laboratoire qui faisait donc ce produit qui s'est appelé après Cimevan. On a véritablement assisté à un miracle puisque le patient qui était vraiment avec une pneumopathie à CMV, on avait arrêté l'immunosuppression, on se disait qu'on allait le passer en réanimation, qu'il allait mourir. On a traité par du Cimevan et le patient a guéri en 5 jours, n'est pas allé en réanimation. Il n'a pas rejeté son greffon. C'était une première que j'ai publiée en première hauteur dans le Lancet en 1988. Puis après, il y a eu beaucoup de publications parce qu'il y a eu des études qui ont été faites par le laboratoire à grande échelle et qui ont montré tout le bénéfice.
Ce tandem entre laboratoire et médecin a été un élément déterminant dans l'histoire de la recherche en néphrologie, selon le professeur.
Il ne faut pas avoir une vision binaire du médicament, c'est-à-dire, par exemple, il y a les méchants industriels qui veulent faire de l'argent. L'apport des industriels est essentiel. De même, la recherche académique, médicale, qui est faite par les universitaires et depuis un certain temps maintenant dans les grands groupes privés, en particulier à Ramsay grâce au soutien de la DRE, c'est d'apporter des connaissances qui ne sont pas celles développées pour les autorisations de mise sur le marché.
Autre révolution dans le domaine de la néphrologie, l'apparition de nouvelles classes de médicaments qui freinent l'évolution vers l'insuffisance rénale. Les IEC dans les années 80, les ARA2 dans les années 2000 et plus récemment les glyphosines. La néphroprotection peut éviter à certains patients la dialyse. Alors finalement, dans toute son histoire, l'objectif de la recherche en néphrologie n'est-il pas de faire disparaître la dialyse?
C'est un rêve récurrent. Au moment de l'arrivée des IEC, on avait des éditoriaux dans les plus grandes revues de néphrologie. La fin de la dialyse est-elle programmée? À quoi ça sert de faire de la dialyse? La greffe va s'arrêter puisqu'il n'y aura plus de dialysés. Tout va se régler en évitant cette évolution péjorative. Donc la néphroprotection permettra de régler tous les problèmes, bien en amont. C'est en partie vrai parce que on va probablement réduire le nombre de patients qui vont évoluer vers la dialyse, 10 à 15% de dialysés en moins dans les prochaines années. Si on développe la greffe, on en aura encore moins. Le problème, c'est que la population, elle est de plus en plus vieillissante et que les gens qu'on a en dialyse vieillissent de plus en plus.
Quel est l'avenir de la recherche en néphrologie? Face à la pénurie de greffons, la xénogreffe, c'est-à-dire greffer un organe qui provient d'un animal, fascine.
Un cochon pressé qui va peut-être sauver des vies.
Nous allons aborder le thème fascinant et plein de promesses de la transplantation d'organes d'animaux chez l'homme.
En mars dernier, Richard Sleiman, 62 ans, a été le premier patient au monde à être greffé d'un rein de porc génétiquement modifié et il est malheureusement décédé ce week-end.
Mais il faudra encore de nombreuses années et beaucoup de moyens pour la rendre réalité à grande échelle. En attendant, une autre petite révolution pour les patients est en cours. Faciliter et encourager la dialyse à domicile, une pratique qui était tombée en désuétude. Ce champ de la recherche est investi par le professeur Guy Rostocker qui réalise des études sur le sujet grâce au soutien de la direction de la recherche et de l'enseignement de Ramsay.
Là, on a publié cette année sur le le coût de l'hémodialyse quotidienne à domicile. Et ce qu'on a montré, c'est que paradoxalement, alors qu'il y a 6 séances par semaine, en fait, ça coûte moins cher que l'hémodialyse en centre. Si on avait une politique très active de développement de l'hémodialyse à domicile, on pourrait probablement monter à 5 à 7%. Là, on est à moins de 3%. Pour la dialyse péritonéale, il y a beaucoup de potentiel. Actuellement, moi, j'ai des travaux sur une simplification de la technique avec des poches longues. Donc, on a un travail qui est en cours. Donc, on espère le faire aboutir.
Retrouvez tous les épisodes du podcast Médecine, Sciences et Recherche Clinique sur le site de Ramsay Santé.